Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Jocelyne Dazé, chargée de projet à la Direction de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Laurier Lacroix, professeur en histoire de l'art et en muséologie, à l'Université du Québec à Montréal et commissaire d'exposition consacrée, entre autres, à Ozias Leduc, Suzor Côté et Robert Wolff. M. Lacroix est membre de la Société des 10 et cette conférence est présentée dans le cadre d'un partenariat avec cette société, fondée en 1935 et qui réunit 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Les travaux de ses membres sont publiés dans les cahiers des 10 et font découvrir au public, depuis 1936, divers aspects de la mémoire et du patrimoine de l'Amérique française. La conférence de M. Lacroix, intitulée « Un cadeau révolutionnaire de la France à Québec, les tableaux des abbés Desjardins », raconte le destin de 180 tableaux à caractère religieux provenant de saisies survenues lors de la Révolution française et offerts à la ville de Québec en 1817 et 1820. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Lacroix. Une période de questions suivra la communication de notre invité. Merci d'éteindre vos cellulaires. Je vous souhaite à tous une très bonne rencontre.
Bon midi, bon après-midi. Merci, Mme Dazé. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens que je connais, mais aussi des gens que je ne connais pas dans la salle. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir également. Évidemment, en préparant une communication qui porte sur l'histoire de l'art historique au Québec, un jeudi midi, on se demande qui peut s'intéresser à ce sujet, mais je vois qu'il y a quelques personnes et c'est important que je suis très heureux que vous soyez là pour partager avec moi ces informations sur les tableaux des jardins. Un sujet qui me colle à la peau depuis déjà un certain nombre d'années et d'après les augures, je pense que j'en ai pas fini encore avec cette question-là. Comme le disait Mme Dazé tout à l'heure, cette conférence est présentée dans le cadre d'un partenariat avec la Société des 10, avec une société un peu secrète de 10 historiens que mon collègue Yvan Lamonde présente souvent comme une coopérative d'idées. Et je pense que c'est un peu le but que l'on se donne de partager l'information. Le bulletin qu'on publie, évidemment, la revue annuelle est une source. Mais cette série de conférences qui avait pour thème la ville de Québec à l'occasion du troisième centenaire de la ville vous a déjà permis d'entendre Simon Langlois, Yvan Lamonde, Fernand Harvey, Gilles Galichand, Denis Delage, Bernard Andresse. Et au mois de novembre, il y aura ma collègue Marie-Thérèse Lefebvre de l'Université de Montréal qui prendra également la parole dans le cadre de cette série. Donc, je vous y invite. Aujourd'hui, donc, je vais vous entretenir du fond de tableau des jardins, comme je l'ai appelé, soit un ensemble de 182 tableaux, pour la plupart des tableaux de très grand format à sujet religieux, qui sont arrivés à Québec dans deux envois séparés. Un premier lot en mars 1817, dans lequel il y avait 120 œuvres, et un deuxième à l'été 1820, dans lequel il y avait 60 tableaux. Par des amis des abbés Desjardins, deux œuvres de plus petit format sont venues de France également. Donc, ça fait, enfin, le lot principal est de 180 œuvres, mais il y aurait au total donc 182 envois particuliers. Donc, c'est un peu les différentes questions rattachées à ces œuvres-là dont je vais vous entretenir aujourd'hui. J'ai intitulé ma communication un cadeau révolutionnaire et le mot révolutionnaire ici a un double sens. Le premier découle du fait que ces œuvres sont devenues disponibles sur le marché, ces œuvres religieuses, du fait de la Révolution française. Suite au décret de 1792, tous les biens du clergé de l'Église donc, ont été saisis par le gouvernement français. Et donc, il y avait une multitude d'œuvres qui devenaient disponibles, qui perdaient leur caractère d'objets religieux servant au décor des églises et à la dévotion, qui perdaient donc ce caractère et qui se retrouvaient propriété de l'État. On connaît un peu le sort de la plupart de ces œuvres-là. Une grande majorité est entrée au Louvre. En 1793, on inaugure le muséum et c'est à partir de cette banque d'images tirée des collections aristocratiques et des communautés qu'on va faire une première collection pour le Louvre. Beaucoup d'œuvres sont brûlées lors des fêtes révolutionnaires. Tout ce qui a un caractère carrément monarchique sert à alimenter les foules et on en sert dans les brasiers qui alimentent les fêtes révolutionnaires au tout début de la Révolution. Et un certain nombre donc retournent sur le marché. Il y a plusieurs marchands qui, à ce moment-là, servent le marché britannique essentiellement. On pense à Lebrun en particulier qui va vendre des œuvres. Donc les œuvres peuvent arriver au Québec dans un contexte révolutionnaire ou suite à la Révolution, mais elles auront, à mon avis, un autre sens lorsqu'elles arrivent à Québec, puisqu'elles joueront un peu le rôle d'une révolution picturale, plastique, iconographique, dans la mesure où elles mettent en circulation 182 sujets nouveaux qui n'avaient pas été vus, des œuvres de grand format, des œuvres de maître, peut-on dire, des œuvres de très grande qualité, et ça va vraiment insuffler un dynamisme, un renouveau dans la peinture d'histoire à Québec, au Bas-Canada, à ce moment-là. Et donc, c'est dans ce double sens que j'entends le mot révolutionnaire. Les tableaux des jardins vont être également perçus, identifiés comme représentant un moment de réconciliation avec la mère patrie, puisque suite au traité de Paris en 1763 et la Révolution française également, à la fois régicide et qui reniait les valeurs de la religion catholique, une bonne partie de la communauté canadienne française ne se reconnaissait plus dans la France ou ne se retrouvait plus dans la France. Et donc l'arrivée de ces tableaux représente une première étape dans les efforts de réconciliation entre la France et son ancienne colonie. Et donc, en ce sens-là, ça joue un rôle hautement symbolique. Le contexte spécifique, évidemment, c'est celui de la venue de deux prêtres, les abbés Desjardins, deux prêtres français dont je vais vous parler tout à l'heure, qui, à l'invitation de Mgr Hubert et avec l'accord du gouvernement britannique, vont émigrer à Québec à la toute fin du 18e siècle. On sait que le clergé français qui n'avait pas voulu prêter serment à la Constitution a dû, en 1792, au mois d'août 1792, le gouvernement les a forcés à s'exiler de France. Beaucoup prennent le chemin de la Hollande, mais la majorité se dirige vers l'Angleterre. L'Angleterre, pays anglican, n'a rien à faire de tous ces prêtres et de tous ces religieux qui arrivent sur son territoire. Et connaissant cette situation, l'évêque de Québec demande au gouvernement si on ne pourrait pas lui envoyer ce surplus de prêtres qui sont en sol britannique. Et donc, il en viendra 42. On pensait que Mgr Hubert envoyait des centaines dans son projet. Il n'y en aura que 42, dont 18 sulpiciens, c'est-à-dire donc un très petit nombre par rapport à l'impact qu'on attendait de cette venue. Un mot pour vous dire que mon prédécesseur, Gérard Morisset, qui avait travaillé sur cette question-là dans les années 30, avait parlé de cette question comme de la collection des jardins. J'ai préféré substituer le mot fond, un fond de tableau, puisque à partir de la définition que propose Christophe Pomian, et je pense qu'elle est très juste, qui a étudié les collections depuis le 16e siècle en Europe, on se propose de voir certaines caractéristiques qui définissent une collection, dont des objets qui sont hors circuit des activités économiques, qui sont protégés, qui sont exposés et qui sont gardés dans un espace particulier, soit le cabinet du collectionneur ou le musée. Alors, les tableaux Desjardins ne répondent à aucun de ces critères, parce qu'au moment où Desjardins les acquiert, c'est dans le but de les revendre. Il ne les a jamais montrés ensemble à Paris avant qu'on les envoie à Québec. Et arrivés à Québec, ils sont tout de suite dispersés. Et donc, il n'y a vraiment personne qui a eu l'idée de ces œuvres comme collection au moment où elles ont été importées au Canada. Et c'est pour ça que le terme « fond », donc qui est une petite distinction sémantique, mais qui m'intéresse dans la mesure où ça jette quand même un regard différent sur ces œuvres-là. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de quatre choses en particulier, donc vous faire un rappel historique sur la nature de ce fond-là, vous rappeler également, vous présenter quelques images, parce qu'il y en a beaucoup, donc reconstituer un peu les éléments principaux du fonds. Vous parlez également de la façon dont les œuvres ont été reçues au Bas-Canada et l'impact qu'elles ont eu sur la communauté artistique et religieuse. Et enfin, donc, d'un certain nombre d'enjeux qui se posent aujourd'hui par rapport à ces œuvres. Alors, les tableaux des jardins sont le fait de principalement de deux hommes, deux frères, les abbés Philippe, Jean-Louis et Louis-Joseph Desjardins. Ici, je vous montre un tableau d'une œuvre de un portrait de jeunesse de Philippe Desjardins, au moment où il vient d'être reçu chanoine du diocèse de Bayeux. Les frères Desjardins donc, sont originaires de Messas, un petit village sur les bords de la Loire. Philippe, Jean-Louis est l'aîné de la famille et Louis-Joseph, dont vous allez voir la binette tout à l'heure, est le plus jeune. C'est une famille catholique extrêmement pieuse. Le père est viticulteur et deux de ses enfants et une des sœurs qui sera religieuse. Donc, on voit que c'est des gens de bonne famille. Philippe est un homme qui a extrêmement d'entre-gens. C'est un mondain, c'est quelqu'un qui est très bien en société. Donc, tout de suite reçu chanoine dès son ordination et nommé vicaire général du diocèse d'Orléans peu de temps après. Donc, s'il n'y avait pas eu la Révolution française, évidemment, c'est quelqu'un qui pouvait prétendre aux plus grands honneurs dans le clergé français. Voici un autre portrait de lui un peu plus tard, fait par Plamondon, Antoine Plamondon, un artiste canadien qui ira étudier à Paris sous l'effet, justement, des tableaux des jardins. Et qui va faire une réplique du portrait que son maître Jean-Baptiste Paulin Guérin a fait de Philippe Desjardins, et pour le ramener à son frère qui lui est resté à Québec. Et donc on le voit un peu plus vieux. J'ai l'impression là, que j'y vais un peu de façon décousue. Donc ils sont deux frères. Philippe arrive à Québec en 1793. Il est de la première délégation des prêtres français qui vient voir la possibilité d'établir des prêtres français au Canada. Son frère, Louis-Joseph, va arriver l'année suivante. D'ailleurs, le voilà, Louis-Joseph. Louis-Joseph, par rapport à son frère, est un exécutant, c'est un homme qui a moins d'envergure. Il va demeurer à Québec alors que son frère retourne à Paris en 1802. Louis-Joseph demeure à Québec et c'est ce qui permet donc que Louis-Joseph soit à Québec pour recevoir les œuvres que son frère a achetées en France et lui envoie à Québec à deux occasions dont on reparlera. En 1802, pour des raisons qu'on s'explique mal, enfin, mais qui sont peut-être liées à l'ennui et au fait que sa carrière soit assez limitée ici, Philippe prend le risque de retourner en France. Et à partir de 1803, il écrit à son frère et lui dit qu'il commence à acheter des tableaux qu'il destine au marché canadien. Il est extrêmement jaloux des informations qu'il livre sur les sources d'approvisionnement de ses œuvres. On sait que sur la quarantaine de prêtres qui sont venus au Canada, plusieurs se connaissaient et il y avait un système d'échange de lettres. On disait, ah, tu as reçu une lettre de France, est-ce que je pourrais la lire? Et donc, elle circulait. Et j'ai l'impression que Philippe a beaucoup censuré d'informations, sachant que ses lettres, Louis-Joseph ne pourrait pas s'empêcher de montrer ses lettres à d'autres personnes. Et donc, nous privant ainsi de beaucoup d'informations sur les circonstances d'achat des œuvres. Mais ce qu'on sait par la correspondance avec son frère, Louis-Joseph resté au Canada, c'est qu'entre 1803 et 1810, il achète régulièrement des œuvres. Pourquoi est-ce qu'il ne les envoie pas plus tôt? C'est qu'à partir de 1806, il y a le blocus continental qui va empêcher donc, la circulation des biens entre la France et le reste du monde, pourrait-on dire. Et donc, le premier lot qu'il a acheté, si vous voulez, entre 3 et 6, ne peut pas partir. En 1810, Philippe Desjardins est emprisonné. Napoléon le soupçonne de complicité de complot contre l'État, puisque lorsqu'il était à Québec, il avait connu le duc de Kent et il a continué de correspondre avec lui lorsque le duc retourne en Angleterre. Et donc, cette correspondance est suspecte aux yeux de l'armée de Napoléon. Et pour cette raison, on va l'emprisonner pendant 4 ans en Italie. Et donc, de 10 à 14, il ne peut pas non plus s'occuper de l'envoi de ses tableaux. À partir de 14, au moment où il revient à Paris, il remet le chantier sur, en action, mais là, il ne veut pas payer de taxes et que c'est compliqué de faire venir de France des œuvres directement à Québec et que ce n'est pas évident d'envoyer dans un premier temps 120 tableaux. Il va donc profiter d'une occasion qui se présente à lui, qui est celle du ministre français aux États-Unis, Ed de Neuville, qui est un de ses amis, qui va donc accepter de prendre dans ses bagages les cinq premières caisses de 120 tableaux qui arrivent à Québec au printemps de 1917. Donc, voici un portrait d'Ed de Neuville. Et donc, c'est par la valise diplomatique, en quelque sorte, que ce premier lot arrive à Québec au printemps de... Donc, ils partent en 16, ils arrivent à Québec au mois de mars 1917 via les États-Unis, où ils ont traîné assez longtemps. Le deuxième lot, ça va être exposé et vendu dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Québec, où Louis-Joseph est chapelain. Le deuxième lot, il arrive grâce à Monseigneur Plessis, qui vient d'être nommé évêque de Québec en succession de Monseigneur Hébert, se rend en France et à Rome pour faire une visite à ses amis et au pape. Et au retour, il accepte de prendre les 60 tableaux, deux caisses que lui envoie que Desjardins destine au marché canadien. Donc, c'est par contrebande, en quelque sorte, ou du moins par des voies indirectes, que ces œuvres arrivent à Québec au printemps, l'hiver 1817 et à l'été 1820. Parmi les deux œuvres qui viennent à Québec également, il y a ce très beau petit tableau de Calais, commandé, envoyé pour les Ursulines de Québec, qui sont des grandes amies des deux abbés Desjardins, donc un martyr de Sainte-Ursule, qui va être inséré dans un médaillon, en médaillon dans un parement d'hôtel des religieuses. C'est un des tableaux récents, une commande, cette fois, donc pas un tableau qui vient de la Révolution, mais une œuvre contemporaine qui est envoyée à Québec par le biais de Desjardins. Voici un tableau rapide des principaux acheteurs des œuvres des abbés Desjardins, parce que ces œuvres arrivent, mais à leur tour, pour être vendues. La famille Desjardins, au tout début du 19e siècle, a connu des grandes difficultés financières. Il y a une crise qui affecte la vigne en France à ce moment-là, et Philippe a trouvé ce moyen-là pour faire de l'argent et y aider sa famille. Évidemment, il ne rentrera pas dans ses sous très vite, hein, parce que les tableaux vont se vendre qu'à partir de 18, alors que lui fait des dépenses en 1930, 1903, 1910. Mais voici un tableau qui vous montre un peu l'ordre d'importance et l'intérêt qu'ont eu certaines paroisses, certaines communautés dans la région de Québec, mais aussi loin qu'à Verchères, Saint-Denis-sur-Richelieu, pour se procurer de ses œuvres. On voit que les amis des Ursulines recevront ou achèteront 15 œuvres, mais en quelque sorte, je vais en parler tout à l'heure, c'est ce que Desjardins ne peut pas vendre. Les religieuses ont accepté de le prendre parce que ce sont des sujets qui ne sont pas très compatibles avec le décor des églises du Bas-Canada. Et ce qui cause une difficulté pour l'étude de ce fonds de tableau, c'est que les communautés, les paroisses qui ont acheté le plus grand nombre, pensons au Seigneur de Québec, à Notre-Dame de Québec, à Saint-Michel-de-Bellechasse ou à Nicolet, ces fonds, ces églises qui contenaient plusieurs œuvres ont été incendiées. Et donc, on est privé de plusieurs originaux pour bien reconstituer, comprendre l'essentiel du fond. Je vous montre donc ici une photo de l'intérieur de la chapelle du Seigneur de Québec avant son incendie, et on voit comment les œuvres, les chapelles ou certains lieux attendaient ces tableaux-là. Le séminaire, qui était la chapelle qui était relativement dépouillée avant, on va s'emplir de 13 tableaux au tout début du 20e siècle grâce aux abbés Desjardins. On les devine à peine ici. J'avais une photo qui malheureusement n'est pas passée dans la compatibilité Mac-PC. Cette œuvre-là, cette image-là n'apparaît pas à l'écran, mais on voyait donc une photo prise le 2 janvier 1888 après l'incendie de la chapelle du Seigneur de Québec, où il ne reste évidemment que des murs calcinés, où les tableaux sont disparus, un peu pour vous montrer finalement l'historique d'une partie de ces œuvres-là. Un des lots où la personne qui va jouer un des rôles les plus importants autour des tableaux des jardins est le peintre Joseph Légaré. Joseph Légaré, qui est un artiste qu'on connaît grâce aux travaux de la Galerie nationale du Canada, de John Porter en particulier, qui est un peintre d'histoire extrêmement important dans la première moitié du 19e siècle au Québec, et qui a acheté 33 œuvres du Fonds des Jardins pour sa collection. Il s'en est inspiré pour ses propres compositions, comme on va le voir tout à l'heure. Et à partir de cet île noyau de sa collection, qui a été exposée à Québec à partir de 1832, finalement également en 1852, et qui a été achetée de sa veuve par le séminaire de Québec en 1872, et qui a formé le noyau de la Pinacothèque de l'Université Laval. Ici, donc, un tableau extrêmement important du Fonds des Jardins de Pierre Puget, qui est connu comme sculpteur, mais qui a fait également un peu de peinture, et un thème que chérissait particulièrement Légaré, David contemplant la tête de Goliath. Je pense qu'il y voyait l'allégorie des Canadiens français versus les colonisateurs de l'époque. De quoi est constitué le Fonds des Jardins? Comme je vous le disais, beaucoup de tableaux sont disparus, mais néanmoins, j'en connais, et je vais vous en présenter quelques-uns, 168 sur ce total, soit qu'on les connaisse directement, que les tableaux aient survécu jusqu'à nous, soit qu'on les connaisse indirectement par une copie ou par une photographie, donc qui sont des sources de documentaires indirectes pour les œuvres. De ce nombre, donc, il y en a 60 qui sont détruits et il m'en manque, donc entre 168 et 182, il en manque encore 14 à trouver, à réapparaître ou elles sont détruites et on ne les connaîtra jamais. Il faut dire que Louis-Joseph Desjardins, le frère qui est resté ici, dès son arrivée à Québec, il est envoyé comme missionnaire dans la baie des Chaleurs. Et il va garder des contacts avec ses successeurs qui vont aller dans les missions et les nouvelles paroisses d'Acadie. Il va faire des dons d'œuvres à ces paroisses-là. Et ça, ce lien-là est mal documenté. De la même façon, les évêques des nouveaux diocèses qui se créent à ce moment-là, je pense à Mgr Gaulin qui s'en va à Saint-Boniface et à Mgr Flaget qui va au Kentucky, donc qui connaissent bien Mgr Plessis et le réseau clérical québécois, vont également profiter du Fonds des Jardins. Et donc, il y a des œuvres, pour l'instant, attendent peut-être dans quelques sacristies ou greniers d'église. J'ai fait des recherches, mais ce n'est pas encore réapparu. Les tableaux étaient surtout, comme je l'ai dit, à caractère religieux, sujet religieux. Quelques-uns portaient sur des représentations de scènes de l'Ancien Testament. 11 étaient dédiés à la Vierge, mais le gros, évidemment, c'est des scènes du Nouveau Testament avec un accent très important sur la vie cachée du Christ, l'enfance du Christ. On sait que ça a été des thèmes de dévotion, des thèmes de sujets picturaux très importants au XVIIe siècle, avec toutes les dévotions autour de l'enfant Jésus et de l'adoration des anges qui adoraient l'enfant Jésus, et également de la fin, donc de la passion du Christ. Hein, c'est les deux grands moments représentés dans le Fonds des Jardins. Il y avait 46 sujets de saints. Vous allez voir également tout à l'heure la difficulté de placer ces tableaux-là parce que beaucoup renvoyaient à des dévotions qui n'étaient pas du tout pratiquées ici. Et donc, il y avait un problème pour le marché. Et finalement, il y a 14 autres sujets religieux, quelques portraits, les deux portraits de pape et trois tableaux profanes. Alors, j'ai préparé un rapide panorama de ces œuvres-là, une vingtaine, pour vous faire voir comment on pouvait reconstituer finalement un panorama de la peinture d'histoire en France au XVIIe et XVIIIe siècle à partir du Fonds des Jardins. Il y a toutes les tendances, tous les mouvements sont représentés depuis le caravagisme, comme ce tableau de Claude Vignon, jusqu'au tout récent développement néoclassique. Donc, il y a vraiment, si un artiste de Québec avait pu voir le lot dans sa totalité, il aurait pu comprendre ou appréhender, si ça avait été son intérêt, le développement de la peinture d'histoire en France sur 2 siècles. Comme je vous dis, les tableaux Desjardins, enfin, je ne l'ai pas dit, mais je vous l'intuitionnez peut-être, Desjardins sortait les tableaux à la pièce, ils étaient mis en caisse, montés sur châssis de façon assez rudimentaire, et selon la taille de l'église, les moyens du personnage, le type de sujet représenté, donc on lui présentait les œuvres qui étaient susceptibles d'être achetées. Et je ne crois pas que personne ait jamais vu la totalité des 180 tableaux, puisque plusieurs des 120 étaient déjà dispersés dans les églises lorsque les 60 autres sont arrivés, et donc il était difficile de se faire une idée de l'ensemble de ce phénomène. Mais PowerPoint aujourd'hui nous permet de recréer la séquence. Alors, rapidement, je ne les commenterai pas tous, mais voici parmi les artistes les plus anciens présentés dans le fond, il y a quelques tableaux maniéristes français, mais il y a une bonne représentativité du tout début du XVIIe siècle, ici avec Claude Vignon, ou avec Simon Vouet, dont voici une des œuvres les plus importantes. J'attire votre attention sur le fait que l'original se termine ici, que toute cette partie-ci a été rajoutée, modifiée. C'est une des questions dont je traiterai tout à l'heure, celle de l'appropriation des tableaux, à savoir de s'assurer que les œuvres entrent dans les espaces auxquels on les destine. Et à cet effet-là, par exemple, à Saint-Henri-de-Lévis, on a mis les 6 tableaux qu'on a achetés au même format. Donc, on a demandé à un artiste de les agrandir et donc de s'assurer qu'ils prendraient bien leur place dans le décor de l'église. Si vous ramenez la composition à l'œuvre de Vouet, donc Saint-François de Paule ressuscitant un enfant, on a justement de ces thèmes extrêmement peu commerciaux. Saint-François de Paule est le fondateur de l'ordre des Minimes, quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un saint du sud de l'Italie qui n'est pas prié ici. Et j'imagine que Saint-Henri, la paroisse de Saint-Henri qu'il a achetée, visait toute la question de la dévotion, des dévotions liées aux mortalités infantiles à ce moment-là, et peut-être au baptême également, en acceptant de prendre cette œuvre majeure de Vouet, mais qui n'entre vraiment pas dans les cadres dévotionnels réguliers. Une mauvaise photo d'un tableau d'Aubin Vouet, le neveu de Simon, qui est à Saint-Denis-sur-Richelieu, tableau qui aurait besoin de restauration et dont l'authenticité, si vous voulez, est confirmée par ce dessin préparatoire qui est au musée de Besançon. Évidemment, chacun de ces tableaux a son histoire propre, évidemment les circonstances de sa commande en France, tout l'historique dans le lieu pour lequel il a été commandé, les événements entourant sa saisie, les propriétaires qu'il a eus entre la saisie et l'achat des jardins, et au moment où ils arrivent à Québec, leur dispersion sur le territoire québécois. Donc, une des premières tâches que je me suis assignée devant ces œuvres-là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'elles étaient et bien de quels artistes, à quels artistes on pouvait les attribuer de façon à pouvoir continuer la suite de l'interprétation. Et donc, d'essayer de documenter l'environnement original des œuvres faisait partie un petit peu, si vous voulez, de mon travail. De Michel d'Origny, qui est un parent également, qui est le beau-fils de Simon Vouet, une annonciation d'un caractère baroque extrêmement marqué, avec le mouvement de la Vierge et toute l'animation de cette figure de l'ange qui repousse l'obscurité et la nuit, et avec une iconographie très particulière où c'est Dieu le Père qui décide de faire la job, si on peut dire, puisqu'il n'a pas délégué le Saint-Esprit. Hein, c'est lui qui vient lui-même rencontrer la Sainte Vierge dans cette composition. Et la Vierge donc se tourne pour rencontrer l'ange. Voici donc un dessin préparatoire qui nous permet de mieux voir la partie supérieure de la composition qui est conservée dans la collection Suda Manning au Texas. On monte dans le 17e siècle, un tableau attribué au cercle de Philippe de Champagne, qui est chez les Ursulines de Québec. Il y avait deux autres œuvres de Philippe de Champagne que Desjardins décrivait comme les musts de la collection, une ascension et une résurrection, qui ont brûlé dans l'incendie de la chapelle du séminaire de Québec en janvier 88. Mais voici une œuvre tout à fait caractéristique du climat franco-flamand à Paris au début du 17e siècle. On avance dans le 18e siècle avec une œuvre de Daniel Allais, un tableau également Saint-Henri de Lévis, et je dirais que c'est le tableau qui a servi de gabarit à partir duquel on a agrandi les autres. C'est le plus grand du lot et avec une iconographie, celle-là, très prégnante au Bas-Canada, Saint-Antoine et Saint-François d'Assise qui reçoivent donc la vision de la Vierge et de l'enfant Jésus. Tous ces artistes sont relativement connus dans l'histoire de l'art français. On peut voir leurs œuvres dans les musées et encore dans les églises en France. Évidemment, arrivés à Québec, ils sont un peu seuls de leur groupe et il faut donc leur redonner un contexte. Le frère Luc est un artiste qui était venu à Québec en 1670-1671. Il avait laissé plusieurs tableaux dans la ville de Québec. Et voici qu'une autre de ses œuvres arrive par le biais du Fonds des Jardins, un sujet donc qui sera portant la vie de Saint François, le Christ dictant la règle, et un tableau qui vient tout juste d'être restauré et dont on peut admirer tout à fait l'effet du paysage et l'étendue de la palette du frère Luc. Tableau de Corneille, cette fois, la résurrection, tableau qui est à Saint-Henri de Lévis également, et de Jean-Baptiste Corneille, deux œuvres du même artiste, ce qui nous pointe, qui pointe quelque chose sur, il y a comme ça des mini-lots, si vous voulez, dans le fond des jardins, et on pourrait penser que des personnes de qui les a achetés avaient peut-être des intérêts de collection quelconques. Ici, donc, du même artiste, un sujet beaucoup plus complexe qui sera dans la collection Légaré, les Béatitudes ou le Sermon sur la montagne. Et c'est le type de sujet qu'on ne peut pas vraiment mettre dans une église. C'est surchargé, même si c'est un thème de prédication, ce n'est pas un thème de dévotion. Et en ce sens-là, ça ne trouve pas directement sa place dans le décor. Et donc, Légaré s'en était porté acquéreur. De Jérôme Dulin, donc on arrive au début du 18e siècle avec des sursauts de l'art baroque, mais avec, on va voir le classicisme prendre sa place de plus en plus. Donc un Saint Jérôme entendant la trompette du jugement dernier, tableau dont le thème va plaire énormément à un des protecteurs des Desjardins, qui est l'abbé Jérôme de Mers. Et l'abbé Jérôme de Mers, c'est un tableau qui était au séminaire et qui a survécu à l'incendie. Et l'abbé Jérôme de Mers va un peu mettre la main sur tout ce qui porte le nom de Jérôme dans le fond des jardins pour les conserver pour lui. De Pierre-Jacques Caze, un tableau qui sera destiné aux Ursulines de Québec, le Christ apparaissant des religieuses dont l'habit peut se rapprocher de celui des Ursulines de Québec. Et dans une mauvaise photo, je vous montre l'impact qu'il fait sur l'autel du Sacré-Cœur, dans la chapelle latérale de la chapelle des Ursulines de Québec. Vous voyez donc qu'il le par son format, et c'était évidemment une des choses que les acheteurs à laquelle faisaient attention, l'insertion dans le décor, le sujet évidemment, l'état de conservation, plusieurs éléments qui jouaient pour la diffusion des œuvres. De Michel-Ange Chasles, le repas d'Emmaüs, un sursaut caravagesque que vous me direz en ce début de 18e siècle, un tableau qui était à l'oratoire Saint-Honoré. Pour la plupart de ces œuvres-là, on connaît leur provenance initiale, le lieu de la commande, puisque lors des saisies révolutionnaires, le responsable, celui qui s'occupait de les recueillir, Alexandre Lenoir, a dressé des listes d'où provenaient les œuvres Et donc, on peut faire des corrélations entre ces œuvres-là, les œuvres du Fonds des Jardins, et leur première localisation. On ne sait pas donc où elles ont été entre leur arrivée au dépôt du musée des Augustins, le dépôt des petits Augustins de Lenoir, et le moment où Desjardins les achète. C'est là où il y a eu un trou dans la provenance et l'historique. Il y avait dans le fond des jardins trois tableaux de la même série de la Grenée. Un a été détruit à Nicolet. Un a été détruit au séminaire de Québec et deux, qui étaient à Baie-du-Fèvre, sont maintenant au Musée national des beaux-arts du Québec. Lors du renouveau, le post-Concile Vatican II, beaucoup d'églises ont modifié leur décor et Baie-du-Fèvre, par exemple, qui a fait un ménage, a cédé au Musée national des beaux-arts du Québec sa collection de tableaux des jardins. C'est là donc où on les trouve maintenant. Et c'est là où on peut voir ces deux tableaux d'esprit néoclassique. Et donc, c'est là où on voit comment on s'approche d'une contemporanéité picturale, donc la mise au tombeau et l'incrédulité de saint Thomas. Il y avait également un Christ et la Samaritaine dans le lot des jardins, à partir d'une commande qui en comptait 6 à l'origine. C'était pour l'abbaye de Montmartre. On avait commandé 6 tableaux à la Grenée, des tableaux donc qui montrent d'une part toute la dette envers la grande peinture italienne, mais également en part la composition en frise et l'architecture, ce début de néoclassicisme qui va jouer un rôle très important dans la peinture de la fin du XVIIIe siècle. Ici, de Godefroy, un tableau qui m'a donné beaucoup de mal. L'attribution de cette œuvre-là n'était pas très facile. Et c'est un sujet également qui est invendable, le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la reine de Candace. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans une église, évidemment? Le thème du baptême, peut-être, un sujet un peu exotique. On voit que l'artiste a été intéressé surtout par le drapé que par d'autres éléments de la composition. C'est d'abord une étude de drapé avant d'être un sujet un peu exotique. Mais voilà le genre d'œuvre qui posait difficulté à l'abbé des Jardins, à l'abbé Louis-Joseph, à vendre ces œuvres-là. Saint-Henri va acheter les œuvres en 1821, donc un peu plus tardivement. Ici, de Laurent Guyot, une œuvre de très grand format qui faisait plus que 3 mètres et qu'on a coupée en deux. Voici la partie de gauche, les ermites de la Thébaïde, la partie de droite et les deux œuvres. En fait, si elles sont réunies un jour, on pourrait les réunir parce qu'il ne semble pas avoir perdu d'informations dans la coupe. C'est juste que dans le décor de la chapelle du séminaire de Québec, les œuvres n'entraient pas comme telles. Donc, on l'a mis de chaque côté de la porte arrière, gauche et droite, donc pour s'assurer que ça rentrait bien. Et c'est encore comme ça qu'on les connaît aujourd'hui. De François-Guillaume Ménageau, un artiste très important de la fin du 18e siècle, qui va être directeur de l'Académie française à Rome. L'Académie, non, peut-être pas l'Académie, l'École française, la Villa Médici, en tous les cas. Un tableau commandé en 1787, donc 2 ans avant la Révolution, par Madame Louise, la fille de Louis XV, qui était carmélite et qui donc a fait cadeau à son ordre de ce tableau qui représente donc Sainte Thérèse recevant la bénédiction de la Vierge et le protectorat de Saint-Joseph. C'est un tableau que Desjardins donne à l'Hôtel-Dieu de Québec pour les remercier effectivement de toute l'aide qu'elles ont eue. C'est un tableau, si vous allez voir la chapelle, qui est toujours placé sur le retable, sur l'autel latéral gauche. Il y avait également 2 œuvres de Jérôme Prudhomme, 2 œuvres tout à fait contemporaines, de sujets encore une fois invendables, dont les Ursulines vont hériter, d'un artiste relativement peu connu, Jérôme Prudhomme. Donc, un anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans un monastère. C'est des tableaux qui décoraient l'église des Dames du Bon Pasteur qui venait au secours des filles repenties. Et donc, ce tableau et le suivant, évidemment, avaient un cadre tout à fait particulier dans le lieu original pour lequel elles étaient commandées. Rendu à Québec, évidemment, ça détonne un peu dans la mesure où ces scènes-là ne sont pas connues et des sujets donc pour lesquels laquelle il n'y a peut-être pas une réalité aussi grande. L'évêque Nonus recevant la pénitente Pélagie, donc voilà le thème de l'autre grand tableau. Voyez-vous, 2,23 m par 2,87 m, c'est énorme. Finalement, le dernier, c'est ce petit tableau. Il y avait une caisse de petits tableaux, et je vous montre cet exemple, donc de Lemonnier, un tableau qui date également de 1787, des environs de 87, qui représente Marie-Madeleine, et qui est en fait une étude pour une autre composition. Je pense que vous reconnaissez la jeune fille. Donc, un sujet néoclassique que Lemonnier a présenté au Salon de 87, Cléombrotte ou l'amour conjugal. Donc, un thème qui a été transformé ici en Marie-Madeleine. On voit comment la même pose, c'est peut-être Lemonnier, dont je pense qu'il connaissait l'abbé Desjardins, qui a transformé le sujet pour les fins de l'importation québécoise. Et je vous montre le dernier exemple, donc, qui est un tableau de Bernardo Strozzi. Il y avait une trentaine d'œuvres qu'on peut dire de l'école italienne ou de l'école du Nord. Voici donc un exemple de l'artiste génois Strozzi, qui est maintenant à l'archevêché de Sherbrooke. Et ces tableaux donc, ajoutent finalement au panorama la représentativité de la peinture européenne au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y avait trois œuvres attribuées à l'environnement de Rubens. En fait, Desjardins pensait qu'ils étaient de Rubens. Donc, des éléments comme ça qui venaient compléter le portrait et enrichir la représentation de la peinture européenne au XVIIIe siècle. Évidemment, ces tableaux arrivent à Québec. Comment elles sont distribuées, elles sont vendues. Elles vont jouer un rôle important dans le décor des églises et des chapelles de Québec. Mais ce qui est important, et c'est sur quoi j'aimerais insister maintenant, c'est sur l'appropriation que vont s'en faire les artistes en s'en inspirant, soit par des copies littérales, soit par des copies partielles dans leur propre composition. À ce jour, on peut estimer qu'il y a une quarantaine d'œuvres du Fonds Desjardins qui ont été copiées en tout ou en partie, pour un total de 165 copies. Et je dirais que cette recherche-là reste à poursuivre. Et par la liste des noms que vous voyez cités, Roy-Audy, Légaré, Plamondon, on voit comment il y a un noyau des jeunes, relativement jeunes artistes à Québec à ce moment-là qui vont être directement inspiré par le Fonds Desjardins. Louis-Hubert Trio, qui est un artiste franco-britannique qui arrive à Québec au début du 19e siècle, et des élèves de Plamondon, Tessier, Matt, Valin, qui vont également diffuser les tableaux Desjardins par le biais de la copie, et copie complète ou partielle. Les Ursulines de Québec également, qui étudient le dessin, qui étudient la peinture, vont copier certaines de ces œuvres-là, et donc on voit se développer une école féminine, si on peut dire, à Québec, à ce moment-là, autour de trois religieuses ursulines de Québec, dont deux sont parentes. Là, je pense que c'est la sœur Pinchot et la sœur Deschênes qui ont un lien familial. L'état dans lequel les œuvres sont arrivées à Québec, elles sont arrivées dans la caisse, elles étaient pliées, roulées. Il fallait donc les détendre, les laisser respirer un peu. Et Desjardins a eu besoin, Louis-Joseph a eu besoin, dans un premier temps, d'artistes ou de gens compétents qui pouvaient remettre sur châssis ces œuvres-là et faire les retouches parce que les tableaux ont voyagé dans de très mauvaises conditions, par mer jusqu'à Boston, et ensuite l'hiver en traîneau jusqu'à Québec. On peut penser donc que les écarts de température, etc., a beaucoup nui aux œuvres, et donc il y a eu besoin d'artistes pour les restaurer. Donc il y a un premier rapport qui s'instaure de restauration, mais très vite, les artistes, évidemment, vont passer à une étape d'apprentissage. Ils vont se servir de ces œuvres-là pour les copier et apprendre leur métier, et également, on peut dire, ouvrir le marché, puisque les œuvres importantes ayant déjà trouvé preneur, certaines églises souhaitaient avoir une œuvre représentant le même sujet, donc on demandait une copie à un artiste. Est-ce que tu pourrais me faire le baptême du Christ ou l'Assomption ou la Pentecôte du séminaire de Québec? Et c'est comme ça qu'on l'a copié. On l'a copié. Donc on va voir ces éléments-là. Je voulais insister dans un premier temps sur un premier rapport qui est un rapport d'appropriation culturelle à travers ce que j'appellerais, ce qu'on appelle, ce n'est pas seulement moi, le surpin de pudeur. Et je pense qu'en le disant, vous voyez ce que je veux dire. Le petit Jésus n'a pas toujours eu cette robe-là. Et Marie n'a pas toujours eu non plus ce vêtement-là. Alors, c'est une partie du travail qu'avaient en particulier les religieuses ursulines de Québec, c'était de s'assurer que les œuvres étaient présentables pour les fidèles québécois. Alors, on avait un travail d'ajustement des décolletés. On sait que le 18e siècle a aimé les gorges plantureuses, même pour les saintes, et que l'enfant Jésus s'est souvent présenté dans son plus simple appareil. Alors, ça pouvait distraire la dévotion des jeunes filles et de certaines dames. Donc, on s'est assuré qu'on a évidemment couvert toutes ces nudités. Ça pose une des questions sur lesquelles je vais revenir en toute fin, en conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres dans cet état? Est-ce qu'on conserve les surpins de pudeur qui témoignent d'un moment de la vie culturelle du Bas-Canada et de l'état dans lequel on connaît ces œuvres-là depuis maintenant 100, presque 200 ans? Ou est-ce qu'on les ramène à leur état d'origine en donnant quelques coups de pinceau et en allégeant cette couleur qui a été, ce peu de couleur qui a été ajoutée, hein, et qui permettrait que l'enfant Jésus se découvre ou que Marie retrouve sa gorge un peu plus abondante. Donc, un dilemme que se posent les propriétaires et les églises. Un deuxième type d'appropriation a été l'adaptation d'un certain nombre de sujets aux dévotions locales. Lorsque ce tableau arrive à Québec, il est identifié comme l'apparition de la Vierge et de l'enfant Jésus à Saint-Antoine. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'apparition de la Vierge et de l'enfant Jésus à Saint-Roch. Le tableau était acheté pour l'église de Saint-Roch de Québec. Saint-Roch est un saint extrêmement, je dirais, prié au début du 19e siècle. C'est celui qu'on invoque contre la peste et l'immigration à Québec et les conditions d'hygiène, on le sait, vont causer plusieurs grandes vagues de peste qui vont faire mourir plusieurs milliers de personnes. Et donc, Saint-Roch est en grande demande. Alors, on a transformé donc ce Saint-Roch, ce Saint-Antoine. Heureusement, le tableau avait été gravé. Le tableau qui est de Simon Vouet était assez important, considéré assez important en France au XVIIe siècle pour qu'il soit gravé, diffusé par la gravure. Donc la gravure existe. Et on voit comment l'artiste, comme il a été gravé, la gravure est en sens inversé par rapport à l'original. On voit que le tableau qu'il était à l'origine cintré, et je pense qu'on voit très bien l'agrandissement de la partie droite qui est absente de la partie gauche. Ici, c'est une photo prise il y a un certain temps alors que le tableau avait été en mauvais état. Et on voit comment il était agrandi également sur la gauche et comment ces parties rajoutées ont tenu un peu moins bien la route que les précédentes. Et cette partie-ci, évidemment, correspond probablement à de l'usure due à une faiblesse de la couche picturale qui renvoie à la pliure originale au moment où on l'a plié pour le rouler et le mettre en boîte. Donc, le tableau est encore sous la forme de Saint-Roch. Ça va être intéressant de voir, parce que le tableau aura besoin de restauration, quelle décision va prendre la fabrique, à savoir est-ce qu'on le ramène à son format original, mais à ce moment et à son sujet original, ou est-ce qu'on conserve la dévotion locale et, en quelque sorte, donc l'histoire de ce tableau qui est double, l'histoire canadienne, l'histoire québécoise de ce tableau, qui est une sous laquelle il est connu sous le thème de Saint-Roch, alors qu'il a été connu presque autant de temps sous le thème de Saint-Antoine. Et donc, de belles questions pour les restaurateurs et les propriétaires des œuvres. Rapidement, quelques copies littérales pour vous montrer cette question de l'apprentissage. Le premier artiste qui va copier les tableaux des jardins est Jean-Baptiste Roy-Audy. Et la première œuvre, la première copie connue est celle de la Pentecôte de Philippe de Champaigne, qui a brûlé dans l'incendie du séminaire de Québec, et pour lequel je vous montre une autre version qui est connue, qui était connue sur le marché parisien. Très mauvaise photo. Voici la copie de Roy-Audy qui est à Varennes. Évidemment, ces copies sont extrêmement pratiques puisqu'elles nous permettent de connaître des œuvres disparues. Elles vont jouer un rôle également, je pense, dans le cas de Roy-Audy, qui va s'adonner au portrait. Et voilà qu'au moment où Roy-Audy commence sa carrière de peintre, il est placé devant une galerie d'expression et de portraits tout à fait exceptionnelle. Et je vois là donc des lieux de transfert et des indices qui auront une portée beaucoup plus grande. En plus de faire une copie de la Pentecôte, voilà là probablement un élément qui permettra à Roy-Audy d'amorcer des éléments et d'acquérir des outils qui lui permettront de faire sa carrière de portraitiste. Le cas donc d'un tableau disparu, mais connu par la copie, tableau disparu, mais dont existe encore une réplique ici à la cathédrale de Metz, en France, un tableau de Charles Monet, copié par Antoine Plamondon pour Saint-Michel de Sillery. Plamondon va en faire deux copies de ce thème-là, une étude de clair-obscur qui semble avoir fasciné l'artiste à ce moment-là. Plamondon est celui qui va plus se réclamer du fond des jardins. Il va souvent dire que ça a été son lieu d'apprentissage et on voit qu'ici en juin 26, au moment où il annonce son départ pour Paris, où il va aller parfaire sa formation, il écrit en toute fin de l'annonce qu'il fait apparaître, il prévient en même temps Messieurs les curés et le public qu'il a chez lui plusieurs tableaux originaux faits par quelques peintres des plus célèbres de l'Europe et quelques copies par lui-même propres pour des fabriques dont il disposera un prix très raisonnable. Et donc les tableaux des jardins nous montrent comment ce phénomène de mise en marché et d'ouverture du marché justement pour la peinture religieuse va devenir possible essentiellement à partir de l'étincelle que va allumer le fond des jardins. Parmi les œuvres les plus importantes, à part les deux Champagne, il y avait une œuvre de Carl van Loo, La Madeleine dans le désert, dont on a perdu la trace vers 1838, alors qu'elle était dans la collection Légaré. On la connaît donc par la copie que fait Trio, Louis-Hubert Trio, qui est l'autre grand protégé de l'abbé des Jardins. Trio arrive d'Angleterre avec des secrets de restaurateur et il va beaucoup aider la formation des Ursulines pour la restauration des œuvres. Il va lui-même faire beaucoup de restaurations sur les œuvres. Comment sait-on qu'il y avait cette œuvre de Van Loo à Québec? Grâce à Gabriel de Saint-Aubin, qui a fait le croquis de l'œuvre lorsqu'elle a été exposée au salon de 1761, et vous pouvez la voir dans la partie supérieure du carnet, on peut déduire que si ce n'est pas l'original de Van Loo, c'est une composition tout à fait identique qui est venue à Québec et qui a copié un Trio pour les religieuses ursulines. Et donc voilà, en fait, c'est la confirmation donc de ces œuvres-là et de cet intérêt qu'ont eu certains artistes pour des œuvres qu'on jugeait parmi les plus importantes, Champagne ou Van Loo à l'époque. Et donc vous pouvez comparer par la disposition. Il y a probablement un ajustement dû au format dans la copie que fait Trio de l'original de Van Loo. Je vous montre rapidement une copie de Tessier pour un original disparu également, mais vraiment disparu. Celui-là, je ne sais pas de quoi avait l'air l'original, qui est à Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, il y a eu une deuxième vague de jeunes, plus jeunes artistes qui se sont inspirés également du fonds Desjardins. Une des choses qui m'a intéressé, ça a été de voir comment les artistes se sont servis de ces tableaux pour en tirer de nouvelles lectures. Par exemple, Légaré va faire des couples ou réorganiser des cycles pour proposer à des églises. On avait une apothéose de Saint-Paul et un Saint-Pierre délivré de prison dans le fond des jardins, deux tableaux qui sont disparus. Et donc, Légaré va souvent les copier comme père, enfin souvent, à deux reprises, les copier comme père et les offrir de cette façon-là ici. Donc, on a l'apothéose de Saint-Paul qui était à l'église de Batiscan, d'après donc un original Notre-Dame de Québec. Je vous montre le dessin préparatoire de l'original de Calandrucci, qui est conservé à Düsseldorf, donc qui confirme en quelque sorte l'authenticité de l'original. Et ici, une copie d'après Jean-Baptiste Trois-Audy, d'un Saint-Pierre délivré de prison, tableau que va copier également Légaré l'année suivante, Trois-Audy en 18, Légaré en 19, et de les voir simultanément nous montre comment les artistes impriment leur marque à travers ces copies. Effectivement, on transcrit le sujet, mais on voit comment le traitement de la couleur, le traitement du dessin, même certains raccourcis sont compris différemment, et qu'il y a déjà là quelque chose qui se dessine du style de chacun de ces artistes à travers ces copies. Donc l'étude comparative de ces œuvres-là va être, puisque ce n'est pas encore fait, extrêmement enrichissante pour comprendre les étapes de formation de ces artistes, puisque là, on a deux œuvres du même sujet, mais qui déjà montrent deux tempéraments assez différents. Deux restos, et on se dirige vers un autre phénomène, celui des copies partielles ou interprétées. Un tableau détruit donc dans l'incendie de Notre-Dame de Québec en 22, un Christ servi par les anges. Louis-Hubert Triot va faire un martyr de Saint-André. Et vous voyez de quelle façon il opère. Il se sert donc de la pose du Christ servi par les anges qui rend grâce à Dieu pour la jumeler avec la croix de Saint-André, qui est donc l'attribut typique du saint, et en conservant donc la figure de l'ange agenouillé au premier plan, mais en transformant le paysage, une commande qu'il avait eue pour décorer le maître-autel de l'église de Saint-André de Kamouraska. Donc, on voit comment les artistes se démarquent des originaux et sont capables de traduire dans leur propre, selon les commandes qu'ils reçoivent, hein, de réinterpréter certains des motifs. Un autre exemple, avec ce tableau de Matthias Stommer, un peintre caravagesque hollandais actif au début du XVIIe siècle, dont on peut voir d'ailleurs deux très bons exemples au Musée des Beaux-Arts de Montréal, un Élie jetant son manteau à Élisée. Donc, un autre thème pas très vendeur, une dévotion extrêmement, je dirais, ciblée en religion catholique. C'est une dévotion qui est particulière aux carmélites. Donc, l'œuvre provenait sûrement d'un carmel en France. Joseph Légaré va s'en inspirer pour créer un autre sujet, qui est celle de la Vierge apparaissant à Saint-Roch, toujours lui. On voit encore une fois comment l'artiste conserve la partie inférieure de la composition, mais crée un nouveau sujet à partir en incorporant donc un élément différent dans la partie supérieure. Et donc ce travail de digestion, en quelque sorte, du fond des jardins, de relecture des œuvres et de transformation en une nouvelle iconographie, participe véritablement de ce phénomène d'appropriation que j'essayais de vous déterminer. Ah, voici. Ah, malheureusement, on a un autre problème avec cette diapositive où on voyait l'ensemble d'un tableau qui est en cours de restauration CCQ. Malheureusement, elle n'a pas survécu au transfert. Je vous montre un détail de l'œuvre pour montrer que c'est un tableau très intéressant d'une visitation qui est arrivé ici avec une signature Oudry, une attribution donc au peintre animalier Oudry. Évidemment, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et en cours de restauration, le tableau est en restauration présentement. On est en train de trouver, l'œuvre a été coupée malheureusement, et donc on trouve les séquelles, les restes, le palimpseste d'une autre signature que vous devinez ici à droite et qu'il faudra interpréter. Mais voici en fait une piste qui s'ouvre pour interpréter ou relire l'auteur de cette œuvre. Ah, voici le détail plus précis. Quelques images pour vous montrer une décision qui a été prise par la fabrique de Saint-Henri, celle-là même qui avait vu passer toutes ses œuvres au même format au début du 19e siècle. Ici, une adoration d'images de Claude Vignon, cet artiste dont je vous ai déjà montré une œuvre. On voit que par la composition que la scène de l'adoration des mages est très condensée à la partie inférieure avec ce paysage extrêmement important à la partie supérieure. Voici une photo prise en cours de restauration qui montre que l'œuvre avait été agrandie à la partie inférieure et à la partie supérieure, constatation qu'on pouvait faire déjà lorsqu'on retournait le tableau et on pouvait voir qu'une toile plus ancienne avait été agrandie au moins deux reprises pour arriver au format actuel. Dans ce cas-ci, la fabrique a accepté, étant donné que les surpeints, je me permets de vous les montrer, défiguraient considérablement l'original et qu'ils n'étaient pas de la plus grande qualité picturale, la fabrique donc a accepté qu'on revienne au format original lors de la restauration, qui a permis donc de dégager une œuvre assez remarquable de Claude Vignon, qui est maintenant donc installée dans l'église de Saint-Henri à son format. Donc elle détonne dans l'ensemble des autres, mais je pense que à la fois l'art et le décor y gagnent en ayant une œuvre, en ayant retrouvé véritablement la qualité de l'original de Vignon qui se cachait sous ses surpeints. L'an dernier, j'ai eu un courriel avec qui était annonciateur d'une grande surprise. Un conservateur, je dirais, plus consciencieux venait de s'apercevoir que dans la réserve du musée de Moncton, il y avait ce tableau et me demandait si je pouvais l'aider à l'identifier. Alors, j'ai rapidement demandé s'il y avait un chiffre au dos du tableau, puisque les tableaux des jardins étaient tous numérotés. Il portait un chiffre écrit de la même façon, donc qui renvoie aux deux envois de 1817 et 1820. Et donc, on a pu, à partir de ça, confirmer ce qu'on pouvait déjà subodorer, puisqu'il y avait des copies anciennes de ce tableau-là à Québec, donc l'original avait existé, et qu'il avait été envoyé donc, par l'abbé Desjardins dans la paroisse de Grandigue, une petite paroisse missionnaire au début du 19e siècle, et au moment, effectivement, du Concile Vatican II, Grandigue s'est débarrassé de son tableau et l'a envoyé au musée acadien de Moncton, où il attend sagement depuis. En fait, là, il est en cours de restauration, donc on va le revoir bientôt. C'est pour dire, je l'annonçais en début de jeu, il manque encore 14 tableaux pour compléter la connaissance du fond des jardins, donc il ne faut pas désespérer que ces œuvres surgissent quelque part. Si je vous montre une mauvaise photo d'une copie que Roy Audy avait faite pour les Ursulines, qui se trouve toujours chez les Ursulines de Québec, en 26, et qui était, en fait, il y a trois copies de ce tableau-là, une à Varennes, celle des Ursulines. Alors, ça pouvait nous laisser entendre que l'œuvre a existé, mais sans la preuve formelle, évidemment, c'était impossible de faire, et la découverte de Moncton permet justement de compléter le puzzle. Je vous remonte cette image pour insister sur quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le passage de la carrière de copiste de tableaux des jardins, de jeunes artistes qui apprennent leur métier, puisque même si en 18, Roy Audy est assez âgé, jusqu'à ce moment-là, il a fait surtout de la peinture de décors pour des voitures et il n'a pas encore vraiment commencé sa carrière de peintre. C'est à partir des tableaux des jardins qu'il va la commencer. Et de la même façon, je pense qu'on pourra regarder attentivement les copies de Légaré pour voir comment ils ont pu influencer son travail de paysagiste. Légaré est surtout connu comme paysagiste. On sait que ce sont les topographes militaires britanniques qui auront une incidence très grande sur sa carrière, mais est-ce que ces tableaux-là n'auraient pas également joué un rôle important au plan de la couleur, au plan de la composition? Donc un travail qui reste à faire également et qui est de la recherche à poursuivre. Un des éléments importants que j'ai mentionné au début et sur lequel j'aimerais revenir également dans l'impact de ces tableaux, c'est le fait que les tableaux des jardins ont permis de rééquilibrer en quelque sorte la présence des œuvres peintes dans les décors d'église au début du 19e siècle. L'absence de peintres compétents, je dirais, après le régime français, de peintres pouvant peindre des tableaux religieux, à sujet religieux, faire en sorte que les commanditaires, que les fabriques, vont se tourner de plus en plus vers les sculpteurs pour les décors d'église. Et heureusement, ils ont été bien servis avec les Levasseurs, les Baillargeais à Québec, l'émergence de l'école de Quévillon à Montréal. Les églises de la fin du 18e ou du début du 19e siècle sont majoritairement faites de décors sculptés. On en a un très bel exemple ici à Saint-Joachin, près de Beaupré, un décor de 1816, donc tout à fait contemporain de Béarger, avec ses figures des évangélistes en ronde-bosse, un décor tout à fait exceptionnel. L'arrivée des tableaux des jardins, si vous voulez, à mon avis, va permettre de réintroduire le pictural dans le décor, du fait donc qu'il y aura des œuvres d'une part, des modèles ensuite, et que les fabriques vont souhaiter intégrer dans des ensembles sculptés importants, mais de la peinture également et d'autres formes d'art décoratif. Ici, un exemple assez tardif avec l'église de Sainte-Luce-sur-Mer, où on voit un tableau de Plamondon qui orne le maître-autel. En conclusion, donc, j'aimerais vous sensibiliser ou vous rappeler les problèmes d'ordre, je dirais, liés à l'éthique des œuvres, à savoir plusieurs demandent de la restauration, plusieurs ont eu des interventions qui les ont dénaturées, enfin qui les ont canadianisées ou québécisées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces surpeints? Est-ce qu'on les conserve ou est-ce qu'on ramène l'œuvre à son état d'origine? Il y a plusieurs tableaux qui posent ce dilemme-là et c'est une question à laquelle il faudra répondre, une question qui renvoie à des valeurs culturelles, à savoir est-ce que c'est le témoignage et leur histoire au Québec est plus importante que l'originalité de l'œuvre et l'importance qu'elles ont eue dans l'histoire de la peinture française. Ici, on est devant une double œuvre, en quelque sorte. Il est possible de revenir à l'original, comme il est possible de garder l'œuvre restaurée, si on peut dire, dans son état, alors un dilemme. Un dilemme qui se pose à un moment où il y a de moins en moins, je dirais, de personnes qui prient devant ces œuvres et où le passage du cultuel au culturel s'opère. Plusieurs personnes souhaiteraient qu'on retire ces œuvres des églises qui les conservent depuis 1817, 1820, 1830. La question est, à mon avis, importante, mérite d'être débattue parmi les personnes que ça intéresse, à savoir, est-ce que les conditions de conservation dans les églises, conditions de sécurité, parce qu'on sait que c'est un patrimoine qui est convoité, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a régulièrement des vols. Alors, est-ce qu'on devrait mettre ces œuvres en sécurité dans les musées ou les conserver dans des églises qui sont désaffectées, mais qui deviennent en quelque sorte des musées dans la mesure où les églises sont surtout fréquentées maintenant, pourrait-on dire, par des gens qui ne vont pas prier, mais plutôt prendre contact avec une étape de l'histoire du Québec qui renvoie donc à son passé religieux. Donc, il y a une certaine actualité du Fonds des Jardins, d'une part par la recherche qu'il faut continuer d'opérer, mais également par des questions que pose la matérialité des œuvres, que pose leur localisation, que pose le fait qu'elles soient là parmi nous et qu'elles ne soient pas toutes brûlées déjà au 19e siècle. Alors, vous avez été un public très attentif. Je vous remercie. Madame Dazet avait annoncé une période de questions. C'est peut-être un peu ambitieux, mais s'il y avait une question, je la prendrais volontiers. Oui.
D'abord, je vous remercie. C'est vraiment très important et intéressant.
Merci.
Ma question est simple. Concernant, je crois que le peintre Légaré avait une galerie d'art à Québec et qu'il a exposé les tableaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette... Est-ce qu'on les a tous montrés et...
Non. Alors, Légaré, je l'ai mentionné trop brièvement, est un artiste extrêmement important de la première moitié du 19e siècle. Il va décéder en 1855. C'est un homme qui a un peu de moyens, mais qui va être prêt à investir, à aller au-delà de ses limites économiques pour investir et s'entourer d'œuvres d'art. Il avait accumulé une collection de plusieurs centaines d'œuvres, plus les siennes, et je pense autour de 1200 gravures. Et donc, il disposait de cette banque d'images dont il pouvait s'inspirer lui-même, mais il a souhaité faire partager ces œuvres-là à la collectivité. Et dès 1829, il expose une partie de sa collection dans les locaux de la Société scientifique de Quebec Literary and Historical Society, avant d'ouvrir sa propre galerie de peinture. Et là, Jean Trudel pourra me corriger, je pense que c'est en 32. 33, merci. Il va la réouvrir également un peu plus tard, vers la fin des années 30. Et finalement, pour lui donner, pour faire construire un espace véritablement propice à accueillir ces œuvres-là avec l'éclairage zénithal et vraiment tout le dispositif muséal qui est en train de se mettre en place à ce moment-là. Et à partir donc de 1851 jusqu'à son décès, et même un peu après, on pourra visiter le Quebec Painting Gallery, comme on l'appelait. C'est le nom du catalogue qui est publié parce que, semble-t-il, les visiteurs étaient surtout anglophones et Légaré s'est adressé à ce public-là. Mais oui, on pouvait voir sa collection d'œuvres européennes, non seulement celle du Fonds des Jardins, où il y en avait 33, mais d'autres œuvres qui venaient sur le marché québécois, qui s'est procuré dans les ventes aux enchères, ses gravures et ses propres œuvres. Donc, il y avait sur trois étages un musée à Québec avant, donc au tout début, dans la première moitié du 19e siècle, un musée qui n'a pas perduré suite à son décès. Et c'est sa veuve donc, qui va céder à l'Université Laval la collection qui est maintenant déposée au Musée de la Civilisation après avoir transité par l'Université Laval. Exactement. Oui.
Est-ce que le tableau attribué à Rubens, la descente de croix qui se trouve dans la chapelle Notre-Dame des Victoires à Québec, provient de la collection des Jardins?
Oui, alors c'est donc je ne l'ai pas listé puisqu'ils n'ont acquis que deux tableaux. L'église Notre-Dame des Victoires, qui était une succursale de Notre-Dame de Québec, a acquis deux tableaux du Fonds des Jardins, deux tableaux qui sont des adaptations. D'une part d'une gravure de Grégoire Huret, une autre de Rubens, une déposition, une montée au calvaire. Donc, vous me disiez que l'attribution était donnée à qui?
À Rubens,
oui.
Oui, parce
alors,
que
oui, oui,
je
non,
pourrais
alors, c'est,
vous
non,
raconter...
Non, c'est pas du tout Rubens, c'est très d'après
tout.
Rubens. Donc, c'est de Rubens de 10e génération, un artiste qui a vu une pas très bonne gravure et qui ne savait pas très bien la dépeindre.
Ah, c'est donc, fait d'après une gravure. Alors.
D'après une mauvaise
oui.
gravure.
J'aimerais vous raconter une petite anecdote.
J'en prie.
J'ai eu l'occasion de visiter la chapelle en préparation à la visite des souverains belges, Fabiola et Baudouin, dans les années 70, avec quelqu'un du ministère des Affaires culturelles. Et on est passé devant ce tableau et j'ai vu Rubens. Mais ce n'était pas même attribué à, c'était Rubens. Alors je dis à la personne, ce n'est pas possible, nous recevons les souverains belges, il faut envoyer, enlever ça. Alors depuis, c'est marqué attribué à Rubens.
Ouais, c'est ça. En fait, comme les communautés, les paroisses qui ont ces œuvres depuis le début du 19e siècle, sont très attachées aux attributions anciennes. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les Ursulines de Québec de leur dire que, justement, leur Jouvenet n'était peut-être pas un Jouvenet, que ceci n'était pas, mais que c'était quelque chose d'autre, que c'était tout aussi intéressant. Mais, évidemment, la tradition orale et une certaine histoire fait en sorte qu'on s'attache à des attributions, puis ça, je pense que c'est correct. Donc, il y avait dans ces communautés des gardiennes d'une histoire et c'était un beau travail de collaborer avec elles. Ben, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très bon après-midi. Il paraît qu'il reste des hot dogs. Alors, vous pouvez participer à la campagne Centraide en vous gavant d'un hot dog en sortant. Bon après-midi.